Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Il est 8h31.
Bretagne 5. L'invité du 7-9.
Et ce lundi matin, j'accueille Richard Roussel, conseiller municipal de l'opposition à Saint-Brieuc et conseiller communautaire à Saint-Brieuc, Armor Agglomération. Il est venu jusqu'à nous au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors Richard Roussel, on va parler de la ville, on va parler aussi de l'agglomération, on va parler de politique évidemment ce matin. La ville de Saint-Brieuc, vue par l'opposition, puisque vous étiez présenté, je le rappelle pour les auditeurs qui n'ont pas forcément suivi toute la campagne des municipales, vous vous étiez présenté, puis bien, vous n'avez pas été élu, hein, c'est le jeu. Quel regard aujourd'hui pose l'opposition sur la... Alors, je mets des guillemets, la politique de la ville hein, de Saint-Brieuc.
Alors, c'est le regard d'une minorité. Nous sommes des conseillers actifs. Évidemment, nous avons accepté le verdict des urnes, comme vous le disiez. C'est le jeu. Et nous sommes à la fois des acteurs et puis des observateurs. C'est une place assez, assez confortable de ce point de vue-là. Voilà, de regarder, d'écouter, d'entendre sans peut-être la pression de l'agir.
Quel est votre regard aujourd'hui ? Est-ce que c'est plutôt un regard bienveillant ? Est-ce que vous êtes satisfait des premières mesures prises par l'équipe municipale ou est-ce qu'il y a des choses qui vous contrarient ?
Alors, on a toujours souhaité engager une action constructive et je dirais bienveillante. Ce qui est le plus fort entre nous au sein du conseil municipal, c'est notre amour véritable de la ville. Une ville, vous le savez, on en a parlé, décrié. Mais on se réunit autour de l'idée qu'elle a un fort et très fort potentiel, sans doute parce qu'elle a aussi un certain retard par rapport aux villes de sa taille en Bretagne. Alors, 15 mois après, je ne ressens pas les fruits de l'action politique de la municipalité en cours. Et je dirais que c'est juste normal. Il y a effectivement des infléchissements, des soutiens particuliers à la politique culturelle, mais j'attends encore la définition d'une vision stratégique. Et je pourrais m'en expliquer si vous le souhaitez.
Mais alors justement, on va en parler de cette vision stratégique. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de route donnée pour la ville de Saint-Brieuc ?
S'il y en a un, j'ose espérer en tout cas qu'il y en ait un, je dirais, un peu intuitif. Il n'a pas été formalisé, il n'a pas été partagé au sein du conseil municipal. J'entends par là, je n'ai pas entendu d'expression autour d'un futur souhaité. Qu'est-ce que l'on souhaite pour la ville et comment on y va en associant toutes les forces vives. Et je dis bien toutes les forces vives. J'entends beaucoup de choses sur l'association des publics les plus vulnérables à travers un comité, une commission permanente pour la démocratie. Enfin, c'est le projet de Monsieur le maire. Très bien. Mais les forces vives, ce sont aussi nos acteurs économiques, nos commerçants. Et pour le coup, je ne sens pas de voix. Alors, on ne peut pas attendre une voix unanime, mais je ne sens pas une association forte entre le pouvoir en place et ces acteurs économiques qui grognent et grincent des dents, plutôt.
Alors, il y a eu une ouverture vers le monde économique. Il y a quelques mois, le maire de Saint-Brieuc, Hervé Guillard, a convié des acteurs économiques à venir le rencontrer, à venir voir la ville de Saint-Brieuc, à y investir, à s'y installer. Est-ce que pour vous, c'était quand même une bonne idée, une bonne initiative, un bon signal ?
Mais écoutez, ce n'était pas le projet porté par M. Guillard. Et là, je me félicite qu'il ait eu cette idée que nous appelions... Alors non pas showroom, c'est sans doute moins marketing, mais j'avais l'intention, si nous étions élus, de réunir des assises de l'immobilier, parce que ce sont ce type d'acteurs et de porteurs économiques. Donc c'est une excellente initiative, il faut la suivre maintenant. J'entendais y associer les grandes agences aussi immobilières et les notaires, dont on connaît le pouvoir aussi pour accélérer et être des facilitateurs dans ce type d'opération, parce que je ne crois pas eu égard aux finances de cette ville, que l'opération en régie qui avait été imaginée, la collectivité rachetant finalement tout ce qu'elle pouvait, mais je ne sais pas avec quel fonds, et y compris avec la foncière qu'il était question de mettre en place, je ne crois pas qu'elle avait la force, l'énergie, et je dirais peut-être même tout simplement dans un premier temps la compétence pour le faire. Donc il faut s'en remettre aux initiatives privées, la collectivité gardant la main sur les axes, j'irai sur ce qu'elle souhaite mettre en œuvre. Donc oui, c'est une bonne initiative, mais derrière cette opération de communication qui est nécessaire, maintenant, la question qui se pose, c'est comment on entretient la relation et finalement, pour quel chemin ? Qu'est-ce qu'on va construire comme futur possible en termes d'habitat familial pour faire revenir une population moyenne avec quelques ressources ? Parce qu'en centre-ville, on a une population, dans de nombreux îlots, plutôt défavorisée. Et moi, je crois surtout à la mixité sociale.
Il faut ramener de la mixité sociale. Il faut ramener aussi, alors on en a beaucoup parlé pendant la campagne, il y a plusieurs mois maintenant, des centres-villes en règle générale, Saint-Brieuc n'y échappe pas, qui se désertifient, les commerçants préférant aller en dehors, en périphérie. Est-ce qu'il faut repenser aussi la circulation à Saint-Brieuc? On parle beaucoup de mobilité douce, de retirer de plus en plus la voiture, ce qui fait grincer quelques dents. Ou est-ce qu'il faut garder une place pour la voiture néanmoins, pour que les gens puissent aller faire leurs achats par exemple?
Là, on est entré dans une phase d'écologie punitive. C'est indéniable. Moi, je me réjouis en tout cas de la mise en place de la sécurisation des voies cyclables et donc que l'on gagne en kilomètres de pistes cyclables. C'est une réalité nécessaire et pour le coup, je suis favorable et en soutien sur ce type d'opération. La question, c'est comment accepter aussi une place apaisée et apaisante pour la voiture, parce qu'on ne peut pas penser la ville que pour une population plutôt aisée d'ailleurs, du centre ou de sa proche périphérie. Donc il faut intégrer la place de la voiture pour ceux qui ont eu une nécessité économique de se rendre en voiture dans le centre de la ville. Et puis il n'y aura pas d'espoir d'installation pérenne de commerce et d'un commerce adapté sans place et sans stationnement pour la voiture, mais il faut le penser en termes de durée, éviter les voitures ventouses. Il y aura de toute façon moins de place pour la voiture, et c'est très bien. La voiture dans la société ne sera sans doute plus autant thermique. Voilà, ça il faut y travailler, mais surtout pas d'écologie punitive. Et un discours que je trouve extrêmement culpabilisant, c'est-à-dire qu'on a presque honte, et on serait pas loin de se cacher quand on se déplace en voiture. On va bientôt porter des masques.
Alors, il y a, vous parliez d'immobilier à l'instant, Richard Roussel. On a quand même une image de Saint-Brieuc qui évolue. On en entend beaucoup parler de Saint-Brieuc aujourd'hui, une ville qui essaie de renaître quelque part. Elle renaît aussi d'un point de vue culturel. On parle beaucoup de l'histoire de Saint-Brieuc qu'on avait peut-être un petit peu occulté les années précédentes pour différentes raisons. Est-ce que vous pensez que ce frémissement de l'image de Saint-Brieuc peut être porteur pour monter des projets, pour changer la ville, changer son visage justement, et là un petit peu de façon transversale en dehors des positions politiques des uns et des autres?
Oui, vous avez tout à fait raison. On a plus de 500 maisons à caractère remarquable. Alors elles ne sont pas toutes, à colombage, bien évidemment. On a aussi une architecture jusqu'aux périodes les plus récentes, jusqu'aux années 80, qui sont reconnues, donc elles sont labellisées quelque part. Donc c'est une ville pour laquelle on a perdu le sentiment de fierté. Une ville qu'on a accusée à tort, à mon sens, d'être grise, etc. Il y a surtout des îlots qui ne sont pas habités, et donc dont les façades sont en mauvais état. Mais les opérations de réhabilitation qui se sont engagées il y a quelques années et qui se poursuivent avec intensité procèdent de ce renouveau de la ville. Le frémissement, il est réel. C'est aussi, je dirais, un effet d'aubaine. Il y a aujourd'hui une reprise du marché immobilier. Il y a un attrait pour les villes moyennes et on en profite. De nombreux Rennais viennent acheter en espérant que l'un des deux dans le foyer trouve un travail sur Saint-Brieuc. mais c'est, ma foi, avec le train, assez facile de s'en rendre quotidiennement à Rennes. Donc il y a une vraie, vraie opportunité de venir vivre à Saint-Brieuc et de goûter, je dirais, aux joies simples et à la qualité de vie d'une ville moyenne comme celle-là, avec sa façade maritime, ne l'oublions pas. Alors, et puis sa façade plutôt rurale. Enfin, on a les deux. C'est une chance.
J'allais dire, il y a une forme de réconciliation entre le port du Léguet, voilà, la façade maritime de Saint-Brieuc, et la ville. Réconciliation aussi avec des quartiers. On imagine qu'il y a quelques années, il y avait une coupure due à la voie de chemin de fer entre, par exemple, la gare et le quartier de Robien. Aujourd'hui, on a vu qu'il y avait une grande ouverture. Est-ce que c'est ça aussi la politique d'une ville, c'est de donner de la lumière à ces quartiers?
Mais tout à fait, mais là, on est sur des temps longs. Un travail qui a été engagé il y a une douzaine d'années. Voilà, donc on cueille les fruits, on en cueillera demain, et je l'espère, avec les politiques qui vont être déployées ces années prochaines. Enfin, je crois qu'on s'inscrit dans une continuité, il faudra qu'il faut garder toujours cette humilité à l'esprit. Et bien sûr, aujourd'hui, on construit plus des ponts et des passerelles, effectivement, mais virtuels et symboliques, que ces fermetures un peu hermétiques entre quartiers. Et la politique en faveur de nombreux quartiers, je pense notamment ce qui a été fait sur... les villages, certains îlots des villages. Vous parliez de Robien, mais je pense aussi à la Croix-Saint-Lambert. Le travail qui est engagé sur Balzac fait qu'aujourd'hui, on se rendra d'un quartier à l'autre de manière beaucoup plus... Enfin, demain, on se rendra d'un quartier à l'autre de manière beaucoup plus fluide. Et puis, surtout, on mixe, on mélange la population, on tente de vivre ensemble, sans exclure quiconque.
Voilà, c'est la politique d'aménagement permet aussi le fameux vivre ensemble dont on parle tant.
Essentiel.
Richard Roussel, je le disais en commençant, vous êtes également conseiller communautaire à Saint-Brieuc, Armor-Adelot, à Saint-Brieuc, Armor-Adelot-Mération, je vais le dire en entier. Il y a aussi une politique de l'agglomération pour Saint-Brieuc, mais pour toutes les villes de cette agglomération. Et là aussi, on a l'impression d'une politique qui avance, qui bouge beaucoup.
Les agglomérations en France ont aujourd'hui un énorme pouvoir entre leurs mains. Ils disposent d'outils de contractualisation avec la région, avec l'État. Les leviers majeurs sont entre les mains de l'agglomération et la ville entend, peser dans les échanges avec l'agglo et se faire reconnaître sa juste place. En gros, un tiers, elle compte pour un tiers de la population, c'est la ville-centre avec des charges de centralité. Et tout l'enjeu pour nous, et ce que l'on suit avec attention, c'est comment les intérêts de la ville, qui sont donc les intérêts finalement de nombreux habitants de l'agglomération, sont préservés dans la politique qui se dessine. J'adresserai quand même un grief à l'agglomération, c'est-à-dire que je pense que la dignité que l'on doit... à nos habitants, elles passent, et ce sont les attentes qu'ils expriment, par l'accès à la santé. Rien n'est fait. L'agglo refuse de porter cette compétence comme elle le devrait. C'est la sécurité. On est dans le déni à Saint-Brieuc. On préfère parler de tranquillité alors que de nouveaux spots, excusez-moi de parler comme ça, de deals, de drogue, s'installent avec des chaises. Je peux vous les faire visiter. Et puis c'est l'emploi. Quand on se croise, très vite, si une discussion s'instaure, je vais vous demander, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et la dignité passe par l'emploi. Je pense que la politique culturelle, associative, sportive, qui est extrêmement dynamique, ne peut pas être un cache-misère de cette réalité. Et l'emploi en passe par l'agglo. Je ne dis pas qu'il ne se fait rien, je dis qu'on n'y hiérarchise pas. On ne crée pas les conditions... de ce que d'aucuns chez les économistes traitaient de district industriel. Conditions pour que des entreprises qui, bien que concurrentes, s'installent sur un même territoire, conscientes qu'elles auront plus à gagner, à développer leur business à proximité, parce que derrière, elles pourront compter sur des échanges, sur la formation, etc. Voilà, un vivier. Aujourd'hui, l'emploi me semble, alors, l'économie finalement, me semble être la maltraitée de la politique de l'agglomération. Et on ne peut pas réduire l'économie au commerce. N'est pas ça.
D'autant qu'il y a un passé industriel. Alors, on parlait de Saint-Brieuc à l'instant, mais plus largement sur l'agglomération briochine et les villes aux alentours, il y a quand même un grand passé industriel.
Oui, mais on a été longtemps dépendant de l'agroalimentaire. Alors, je pense qu'il y a encore des choses à poursuivre là-dessus. Sachant que les attentes en matière d'alimentation ont énormément évolué pour la population. Donc il y a sans doute une nouvelle agroéconomie à développer. Mais je pense qu'il y a aussi des économies vertes. On doit pouvoir s'appuyer sur la technopole davantage qu'on ne le fait aujourd'hui. Mais de manière extrêmement volontariste, sans saupoudrage. C'est-à-dire que je préférerais que 80% des aides aillent sur des secteurs porteurs qui nous distinguent d'autres dans la région que sur des règles, finalement, qui, à force d'un caractère égalitariste comme ça, pèse peu sur les souhaits d'implantation. Donc sur l'économie, j'attends qu'on ait la même énergie sur le territoire que sur l'habitat et l'immobilier.
Alors on va parler de santé dans un instant, parce que vous avez une autre casquette, vous êtes formateur dans la santé, Richard Roussel. Mais j'aurais juste voulu, en un mot, vous parliez de sécurité aussi. On s'aperçoit aujourd'hui que toutes les villes, y compris en Bretagne, et y compris Saint-Brieuc et les villes aux alentours, sont gangrénées par le trafic de drogue. Alors, il ne s'agit pas de dire que ce sont des coupes-gorges. Hein. On ne va pas aller jusque-là. Mais il y a ce problème. Comment une agglomération, par exemple, peut peser alors qu'elle n'a pas de pouvoir de police, finalement ?
Non. Alors, pour le coup, c'est plutôt du ressort sur Saint-Brieuc du maire et dans une concertation étroite avec la police. Une relation qu'il faut entretenir. Hein. C'est jamais gagné et ce n'est jamais définitif. Il faut travailler dans une relation de confiance. Pour autant, la prévention de la délinquance est une compétence à travers le dispositif intercommunal porté par l'agglo. Parce que les trafics ne connaissent pas les frontières communales. Et que l'idée, c'est effectivement de prévenir et puis taper fort sur ces trafics quand c'est nécessaire. Je suis plutôt inquiet. Ce ne sont pas des coupes-gorges aujourd'hui, mais là, on crée les conditions de ghettoisation, et puis on crée les conditions. On va laisser croire à une jeunesse qu'elle a finalement beaucoup plus à gagner à vivre de ces petits trafics que d'envisager une voie intégrative. Qui est la seule qui va leur rendre une place et leur accorder une place dans la société.
Là aussi, il faut s'appuyer sur les associations. On parle beaucoup d'éducation populaire. Aujourd'hui, on a un peu perdu le sens de cette éducation populaire. Est-ce qu'il faut remettre ça au goût du jour ? Je l'ai déjà posé la question à quelques-uns de nos invités dans la matinale.
Je vais vous avouer quelque chose. Quand j'ai commencé ma vie, j'ai été pendant une dizaine d'années conseiller d'éducation populaire pour le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, c'est un sujet qui
me touche. Je tape dans le mille.
Dans le mille, c'est bien l'idée que on ne peut pas s'en remettre qu'à la famille, on ne peut pas s'en remettre qu'à l'école, et que finalement, on grandit, on apprend tous les jours et tout au long de la vie. Donc je crois beaucoup au corps intermédiaire et à la vie associative, nullement besoin de me convaincre. Je pense qu'on peut avoir une contractualisation forte entre les collectivités financeuses et ces structures. On a vu pendant la crise sanitaire que le vivre ensemble avait été amoché, parce que les associations n'étaient plus en capacité à porter leurs projets. Donc, je dirais que la boucle est bouclée et on a besoin de travailler avec ces associations, bien évidemment.
Alors, vous avez prononcé le mot crise sanitaire. On y est encore dans cette crise sanitaire, même si on entrevoit, on le dit en tout cas, cette sortie de crise, mais on y est encore. Donc, il faut rester prudent dans nos gestes au quotidien. Crise sanitaire qui a eu de nombreuses conséquences et puis crise sanitaire qui a révélé, et c'est là où on en vient à la santé, que notre système de santé était finalement assez fragile et que en particulier dans les campagnes, mais aussi dans les villes, on a vu cette détresse face à la santé. Là aussi, est-ce qu'une agglomération peut peser dans les décisions de santé ? Est-ce qu'on peut faire des choses ?
Vaste question. La crise sanitaire a montré que finalement, l'hôpital tenait bon. L'hôpital, qui est un peu le mal-aimé, parfois, Voilà, l'hôpital qui m'est cher au cœur. Et puis, on a redécouvert que le système de santé, c'était à la fois des offreurs, des usagers. Et dans les offreurs, il y a les hôpitaux, les cliniques, et puis il y a la médecine de ville. Mmh. Et la médecine de ville, comme vous le dites, aujourd'hui, on en parle à travers les déserts médicaux. Et pour faire simple, parce que c'était une proposition, je ne vais pas revenir sur la campagne, mais c'est vraiment un sujet qui m'anime au quotidien. Je pense que les acteurs publics, les acteurs politiques ont un rôle majeur à jouer, évidemment, pour créer les conditions d'une installation. Il est fini le temps où il suffisait de bâtir un cabinet médical, c'est-à-dire des murs hein, pour que les médecins s'installent. Ce ne sont pas les conditions. Alors, je pourrais aller plus vite, mais il faut penser à la formation, ceux qu'on appelait les internes qui... aujourd'hui, ont une obligation, quand ils veulent devenir, pour faire simple, un médecin généraliste, de faire des stages en alternance, j'allais dire, sur des périodes hospitalières et des périodes de cabinet de ville. Et j'ai la conviction intime et forte que quand on a fait un stage de 6 mois à Yves-le-Fol, et puis qu'on fait un stage de 6 mois à Plaintel, voilà, auprès d'un médecin libéral, j'ai parlé à Glo, et puis on fait un stage de 6 mois chez un offreur hospitalier, et on en fait un quatrième dans un cabinet de Saint-Brieuc. On découvre un territoire et on s'y installe. Mmh. Mais pour créer cela, évidemment... on a besoin des acteurs publics. Parce qu'il faut aussi proposer une offre culturelle, il faut proposer des logements adaptés, parce que quand vous êtes étudiant en médecine, vous dépassez les 25 ans hein, sur ces phases d'études-là, et puis vous avez parfois déjà fondé une famille. Quelles sont les conditions de facilitation de cette installation ? Voilà. Et puis, pour faire vite, il n'y a pas que l'exercice libéral, je crois aussi au centre de santé, comme j'ai pu le déployer avec Guingamp, Paimpol, Armor, Agglomération et l'hôpital de Guingamp, comme Thierry Semalière l'a fait à Saint-Quay, comme on l'a fait à Lamballe, et j'en passe, et dans le Méné. Les centres de santé, c'est pour un exercice salarié. Ce n'est pas la solution éternelle, mais je pense que c'est une solution transitoire, parce que ces centres de santé ont vocation aussi à accueillir ces internes. Mmh. Et voilà. Et donc après, ces internes s'installent sur le territoire. Donc oui, on a besoin, plus que jamais, mais ce n'est pas une politique municipale, à mon sens, qui doit le porter, mais bien une politique d'agglomération. Et si nous, si vous le demanderez à Thierry Sumelière, s'il a fait le choix de le faire porter par la ville, c'est parce que l'agglo n'a pas été attentive à ce besoin et n'a pas senti, je ne vais pas parler à sa place, mais à cette époque, la nécessité de le faire porter par l'agglomération. Mmh. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais oui, oui et oui, on a besoin de l'agglo. Ce n'est pas une fatalité, on a besoin des villes pour qu'une démographie médicale se réinstalle sur les territoires. Il n'y a pas de fatalité. Alors nous sommes entre Rennes et Brest, c'est pas le plus facile, mais avec la fac qui s'est montée à Saint-Brieuc, je vois de réelles opportunités.
Voilà, alors là aussi on aurait pu parler de l'éducation plus largement et puis de l'université, de la fac, mais là le temps est très court et j'aurais voulu vous entendre un petit peu sur la politique, sur votre santé de la politique générale aujourd'hui en France. On est, ça vous aura pas échappé, dans une phase d'élection présidentielle, ça se tend comme on dit, ça, voilà, chacun fourbit un peu ses armes politiques, j'entends bien entendu, et puis on enchaînera sur les législatives. Aujourd'hui, on a un paysage politique assez violent en France, on peut le dire comme ça. Quel est le regard que vous portez là-dessus, Richard Roussel ?
Moi, je suis assez malheureux et inquiet hein, de la tournure que prend le débat public, si débat il y a. Je pense qu'on a une véritable fracture hein, qui, pour le coup, n'est plus ni numérique, mais entre des gens qui se coupent de la réalité politique, qui ne vont se déplacent plus pour aller voter.
L'abstention, hein, toujours l'abstention.
Voilà, et d'autres qui s'expriment de manière de plus en plus violente. Je pense que les responsables politiques ont un rôle à jouer hein, pour que ça cesse. Cette violence politique, parce que c'est de ça dont il s'agit, elle est quand même cautionnée. Elle est cautionnée par une forme... d'alarmisme écologique qui porte en lui les gènes de cette violence. Elle est cautionnée quand on ne sait pas dire aux anti-vaccins que ça suffit, que la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. voilà, que jusqu'alors, on n'a jamais contesté une politique vaccinale obligatoire et que les choses ne sont pas faites en dépit du bon sens, qu'on n'est pas sur des traitements ou des thérapies génétiques. C'est totalement faux. Donc il faut, n'en déplaise à son électorat parfois, reprendre les choses calmement mais fermement. Il y a une responsabilité politique qui impose un discours responsable. J'ai effectivement extrêmement peur de la tournure de ces campagnes politiques à venir qui ne sont aujourd'hui qui ressemblent plutôt à du spectacle médiatique ou à coup de fake news, de contre-vérités, de chiffres invérifiables, en tout cas pas dans la temporalité du débat. On ne s'écoute plus. On ne s'écoute plus et on n'est plus capable de partir de ce qui nous réunit, de ce qui nous rassemble, mais on va d'emblée aller chercher ce qui nous divise. C'est pas ma conception en tout cas.
Alors il y a M. Zemmour hein, qui est en embuscade aujourd'hui. On voit que là aussi, même à l'extrême droite, jusque-là ça s'arrêtait à Marine Le Pen, maintenant on va un petit peu au-delà. Est-ce que c'est aussi de nature à vous inquiéter cet extrême qui vient en France ou qui revient, comme on a pu le vivre à d'autres périodes peu glorieuses de notre histoire ?
Bah, toutes les formes de populisme sont inquiétantes. Et je crois qu'elles dénotent surtout un manque d'éclairage. Un manque de rationalité, des peurs incontrôlables ou incontrôlées de la part des uns et des autres. Donc là aussi, on a une responsabilité, mais tous, corps intermédiaires, médias, politiques, enseignants, pour peut-être développer, ramener un peu de culture scientifique et un peu de rationalité dans ce qui aujourd'hui ressemble à une foire au grand n'importe quoi.
Les réseaux sociaux sont pointés du doigt, on le voit souvent. Est-ce que là aussi, il faudrait réglementer, imaginer quelque chose d'autre ?
Ah bah les réseaux sociaux, c'est 80 millions d'experts, hein. Donc on est tous experts. Je passe mon temps à dire que je ne sais pas, mais alors certains n'ont finalement pas ce genre de doute. Je ne sais pas, c'est aujourd'hui notre forme voilà, d'expression. Les rumeurs, vous savez, elles existaient, les corbeaux avant, bon, ça prend une autre forme. Je crois beaucoup à l'éducation, en tout cas aux réseaux sociaux. Il va falloir prendre soin de notre jeunesse. Pour nous, c'est un petit peu tard et on en subit les affres, mais je pense qu'il faut développer quelque chose d'extrêmement fort et volontariste pour les enfants et les jeunes. Leur faire comprendre que voilà, tout ce qui se dit, tout ce qui circule, on est quand même effrayé par des suicides de jeunes qui se font calomnier ou pour lesquels des vidéos virales circulent. Voilà, c'est dramatique. On va au-devant de grandes difficultés si on ne s'empare pas du problème, effectivement.
Eh bien, le problème est vaste à traiter. On ne le fera pas ce matin, évidemment, Richard Roussel, d'autant qu'on va devoir se quitter parce que voilà, l'heure, c'est l'heure. Déjà, je rappelle, Richard Roussel, que vous êtes conseiller municipal de l'opposition à Saint-Brieuc, conseiller communautaire à Saint-Brieuc, Armor, agglomération, très attentif à tout ce qui est santé également, puisque c'est aussi votre métier à côté. Merci infiniment d'être venu au micro de la matinale ce matin. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous. Bonne journée à tous.
Bretagne 5 matin, le 7-9, Stéphane Hamon.